Le journal de Jérémy Pignard.
Bonjour. La commune de Courtaitel est épinglée par une enquête de l'État. Elle n'a pas respecté la loi cantonale et la réglementation communale pour son projet de complexe scolaire. Ce sont les dépenses qui sont visées par l'enquête. L'heure de rendre des comptes pour Ignacio Cassis après l'abandon des négociations sur l'accord cadre. Le conseiller fédéral s'est expliqué ce matin devant le Conseil national, salué par une partie de la droite, vivement critiquée à gauche. Chic, un choc, France-Allemagne, un classique ce soir dans le groupe de la mort de 7 euros de football, affiche entre les deux derniers champions du monde, un match qui a déjà été lancé au jeu des petites phrases, vous l'entendrez. Désert d'été demain encore avec le Jura sur le Jura avec un ciel très ensoleillé, des températures estivales autour de 30 degrés et aussi des orages possibles en fin de journée. Les autorités de Courtaitel n'ont pas respecté la loi cantonale et la réglementation communale pour leur projet de complexe scolaire. C'est ce qui ressort de l'enquête administrative menée par l'État jurassien sur les dépenses liées à ce projet. Recommandations et avertissements ont déjà été adressés à l'exécutif communal. Le gouvernement se prononcera encore sur une éventuelle sanction disciplinaire, Raphaël Chalvera.
Souvenez-vous, les citoyens de Courtaitel ont refusé le 9 février 2020 la réalisation d'un nouveau complexe scolaire devisé à 14,5 millions de francs. Mais c'est dans la préparation du dossier que le bât blesse. Les montants pour l'étude du projet s'élevaient à 977 000 francs. Ils ont bien été provisionnés sur décision des assemblées communales des comptes de 2016 à 2019. Le hic, ces montants ne pouvaient pas être dépensés sans l'autorisation formelle de l'organe compétent, à savoir le corps électoral. Et celui-ci n'a pas été consulté. Pour le canton, les autorités de Courtaitel n'ont pas voulu cacher quoi que ce soit. Les irrégularités relèvent d'un défaut de connaissance de la législation et d'une certaine négligence dans la gestion financière du projet. Reste que, selon l'État, les organes communaux impliqués n'ont pas fait preuve de toute la rigueur attendue dans l'accomplissement de leurs devoirs et obligations.
Et maintenant, Raphaël, que va-t-il se passer ?
Le gouvernement demande d'abord aux autorités de Courtaitel de présenter dans les meilleurs délais les montants engagés sans autorisation au corps électoral pour approbation. Cette démarche pourrait se faire dans le cadre d'une votation sur un nouveau projet de complexe scolaire. L'État recommande ensuite la mise en place d'un système de contrôle interne sur les dépenses communales et de veiller à ce qu'une information spécifique soit donnée au personnel. Enfin, le gouvernement adresse un avertissement à l'ensemble du conseil communal au regard de la responsabilité collégiale dans la gestion des affaires. Les lois et les procédures doivent être respectées. L'exécutif cantonal planchera encore ultérieurement sur une éventuelle sanction disciplinaire après avoir écouté les autorités de Courtaitel en vertu du droit d'être entendu. Sanction qui peut aller du blâme à la révocation en passant par l'amende.
Et contactée par notre rédaction, la maire de Courtaitel, Christine Guigax, se dit soulagée que l'enquête soit terminée sans vouloir communiquer sur son contenu. La commission communale chargée de rebondir sur le projet de complexe scolaire transmettra aux autorités des propositions à la fin du mois. Christine Guigax affirme par ailleurs que l'attention portée à la gestion financière de la commune a été renforcée. Le canton du Jura va recevoir 161 millions de francs de la péréquation financière l'an prochain. La formation a été transmise par la Confédération ce matin. Ce montant représente un manque à gagner de 7 millions de francs par rapport au versement précédent. Si le Jura perçoit moins, c'est parce que son potentiel de ressources s'est amélioré comparativement à d'autres cantons. Des brins trutins qui se regroupent pour donner vie aux anciens livres. En mars dernier, le conseil municipal et le conseil de ville avaient pourtant rejeté un projet de boîte à livres. Ça n'a pas fait abdiquer ses passionnés dans le sillage de l'élu socialiste Lisa Raval qui a décidé de prendre les choses en main. Elle et d'autres brintrutins motivés se sont réunis la semaine dernière pour concrétiser ce projet. L'assemblée constituante aura lieu après l'été. Les trois premières boîtes à livres devraient ensuite voir le jour. Lisa Raval ne comptait pas lâcher face au refus des autorités.
Suite à un postulat que j'avais déposé au conseil de ville à Porrentruy et qui a été refusé, j'ai décidé de lancer une association boîte à livres à Porrentruy avec mon conjoint pour justement pallier ce manque.
Et quels sont les bienfaits justement au niveau des boîtes à livres ?
Déjà, on peut citer l'écologie parce qu'on recycle des livres tout bêtement. Aussi sociaux parce que c'est des lieux de rencontre où on se croise. Intergénérationnels aussi parce que ça dépend évidemment comment on remplit ces boîtes à livres. Mais s'il y a un petit peu pour toutes les générations, générations et tous les types de personnes, tous les intérêts. Plusieurs types de personnes peuvent se rencontrer et évidemment, c'est un accès à la culture.
Et puis au niveau du futur, comment ça va se passer? Donc il y aura une assemblée générale, la création du groupe et puis après, qu'est-ce qui va se tramer autour de ces boîtes à livres?
Au mois de septembre, on fait une assemblée générale où on invite tout le monde à venir hein, parce que le but, c'est de rendre ces boîtes à livres vivantes. On est parti dans l'idée d'en construire 3 dans un premier temps et puis de faire un modèle qu'on pourrait proposer aussi à différentes peut-être associations ou privées après de s'approprier au niveau visuel. Et puis c'est aussi peut-être d'avoir une ou deux activités par année autour du livre, près des boîtes à livres.
Lisa Raval qui répondait à Coraline Kempf de Léman BD. Ça démarre ce week-end, dès vendredi. L'organisation a communiqué ce matin le programme détaillé de sa fête. 30 auteurs et autrices seront notamment présents pour des dédicaces. La liste est à retrouver sur rfj.ch. Vendredi soir, des personnalités jurassiennes s'affronteront aussi dans un drôle de concours de dessin. Vous y retrouverez notamment la grimpeuse Catherine Chong ou encore le hockeyeur Philippe Michael DeVos. La politique, certains l'ont dans la peau depuis toujours. D'autres se lancent sur un coup de tête, un peu comme Olivier Goffinet, désormais député PDC de Courandelin. C'est un problème très concret qui l'a poussé à sortir du bois, celui des pistes de VTT dans le Jura. Un débat qui a fait rage l'an dernier, au mois de juillet. Et c'est à ce moment-là qu'Olivier Goffinet a décidé de faire de la politique avant même de choisir le parti qu'il représenterait.
Ça a été pour moi aussi beaucoup de réflexion pour savoir dans quel parti je devais m'engager. C'est vrai qu'aujourd'hui, mes valeurs sont proches d'un centre, je dirais, avec des idées que j'ai envie de développer qui sont pragmatiques, de faire avancer les choses. Dans le consensus, je suis quelqu'un de consensuel. Et puis, c'est vrai que le bien-être des familles jurassiennes, pour moi, est vraiment important aujourd'hui. Et puis, notamment, tout ce qui peut être lié aux assurances maladies, ces genres de choses. Donc là, il y a beaucoup de boulot à faire. Et puis, pour moi, c'est pour ça que j'ai envie de me battre aujourd'hui.
Si on revient sur ces pistes VTT, c'est très concret. Finalement, il y avait un problème. Vous décidez de vous engager pour le défendre. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que cette cause-là, elle a avancé? Vous êtes allé jusqu'au bout pour la défendre?
Pas encore, parce qu'effectivement, j'ai déposé une motion par rapport à ça qui est en train d'être traitée. Donc, il y aura une réponse du gouvernement. Après, elle sera débattue au Parlement. Il faudra voir si on fait avancer les choses dans ce sens-là ou pas. Non, je dirais qu'on n'est qu'au début. Après, on peut construire là-dessus.
Donc l'impression quand même d'avoir un impact concret sur ces choses.
J'espère en tout cas que cette motion qui a été déposée pourra faire avancer les choses. Oui.
Le député PDC de Courandelin, Olivier Goffinet, qui était l'invité d'un tour de l'hémicycle dans la matinale avec Léandre Béret. La semaine prochaine, rencontre avec le député vert du Bémont, Yvan Godat. Un fonds spécial pour encourager les étudiants entrepreneurs. La Haute École Arc annonce qu'elle apportera un soutien financier aux projets entrepreneuriaux et d'innovation de ses étudiants. Ils peuvent viser à la création d'entreprises dans la région ou répondre à des besoins sociétaux et environnementaux. La HEARC a pour cela créé un fonds de 50 000 francs. La Suisse devrait connaître un rebond économique bien meilleur que prévu. Le groupe d'experts de la Confédération a fortement relevé ses prévisions de croissance du PIB, 3,6% pour 2021 contre 3% attendu jusqu'ici. Le secrétariat d'État à l'économie indique aujourd'hui que cette croissance serait supérieure à la moyenne historique. Elle dépasserait même les niveaux d'avant la crise. Suisse va finalement biffer moins d'emplois que prévu. La compagnie aérienne a annoncé aujourd'hui qu'elle allait procéder à 550 licenciements sur les 780 envisagée au mois de mai dans le cadre de sa réduction de voilure. La filiale de Lufthansa confirme toutefois son objectif de supprimer 20% de ses effectifs et de réduire de 15% sa flotte d'ici la fin de l'année. La compagnie va notamment licencier plus de 300 membres du personnel de cabine. Le Conseil des États refuse toujours de prolonger l'aide financière à la culture jusqu'à fin avril 2022. La nouvelle modification de la loi Covid-19 prévoyait au départ de ne prolonger jusqu'à la fin de l'année que les allocations pour perte de gains et les soutiens aux clubs sportif. Le National voulait y ajouter une prolongation des soutiens à la culture au-delà de la fin de l'année pour 4 mois supplémentaires. Une exception à nouveau refusée par les États, la révision repart au National. 3 semaines après la rupture des négociations avec l'Union européenne sur l'accord cadre, c'était l'heure de rendre des comptes ce matin devant le Conseil national. Ignacio Cassis a dû se justifier devant les députés. Beaucoup de discours convenus, des critiques bien sûr, mais aussi du soutien pour le ministre des Affaires étrangères et Conseil fédéral. L'UDC s'est montrée généreuse en compliments pour le gouvernement à l'image de la conseillère nationale genevoise Céline Amaudru.
Il a fallu du courage et le Conseil fédéral en a eu. Le Conseil fédéral a simplement, mesdames et messieurs, refusé de signer un accord qu'il estimait désavantageux pour notre pays. Dans sa pesée d'intérêts, le gouvernement est arrivé à la conclusion que les inconvénients l'emportaient sur les avantages, ce qui l'a conduit à refuser de signer. Il a préféré la souveraineté dans l'effort plutôt que la vassalité dans le confort. Restons calmes. La Suisse ne s'est pas effondrée le 26 mai dernier. Ce n'est pas une sortie de route, c'est simplement la modification d'une trajectoire.
Les autres groupes politiques ont été plutôt critiques envers le gouvernement, décevant pour le PS, incompréhensible pour les Verts libéraux, une erreur pour les Verts. Le conseiller fédéral ne s'est pas laissé démonter. Ignacio Cassis a répété que la Suisse veut rester un partenaire fiable et engagé de l'Union européenne.
L'évolution des relations entre la Suisse et l'Union européenne dépendra évidemment aussi de la réaction de l'Union européenne. Jusqu'à présent, la Commission européenne fait part avec retenue de sa déception sur la fin des négociations relatives à l'accord institutionnel et a annoncé une période de réflexion. Pour notre part, nous allons continuer à cultiver les contacts avec nos partenaires européens sur la base de nos plus de 100 accords bilatéraux qui restent en vigueur et sont applicables.
Et pour sortir de l'impasse, le socialiste Roger Nordmann estime maintenant qu'il faut étudier la perspective d'adhérer à l'espace économique européen, voire même à l'Union européenne.
Il faudra décider ce que nous voulons comme rapport à l'Europe, car nous nous racontons collectivement des histoires. Le moment est venu de réfléchir comment défendre au mieux la démocratie et casser le tabou de l'option d'une adhésion à l'Union européenne. Car jusqu'à nouvel avis, mesdames et messieurs, la démocratie, c'est de permettre aux citoyennes et aux citoyens de participer directement et indirectement aux décisions qui les concernent, là où elles se prennent, et d'y défendre nos intérêts.
Un dossier signé de notre correspondant à Berne, Serge Jubin. C'est aujourd'hui que Joe Biden va poser le pied sur le sol suisse. Le président américain va boucler sa première tournée européenne à Genève sous haute sécurité. Il doit rencontrer cet après-midi le président de la Confédération, Guy Parmelin, le ministre des Affaires étrangères, également Ignacio Cassis. Le sommet très attendu avec le président russe Vladimir Poutine est prévu demain.
Vous écoutez RFJ, il est 12h27.
Le journal de l'euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen. Le genre de petites infos qui fait plaisir à l'Euro de football. Christian Eriksen a donné des nouvelles rassurantes ce matin. Le milieu de terrain du Danemark affirme qu'il va bien malgré les circonstances. Un message assorti d'une photo avec le sourire postée sur les réseaux sociaux 3 jours après avoir été victime d'une attaque cardiaque en plein match. « Maintenant, je vais soutenir les gars de l'équipe danoise pour les prochains matchs », dit encore le joueur de l'Inter. Prochaine rencontre du Danemark, ce sera jeudi face à la Belgique, puis lundi contre la Russie. Et ce soir, c'est un grand classique européen. Place aux choses sérieuses pour le groupe de la mort. Hongrie-Portugal, puis France-Allemagne, les premiers matchs du groupe F. Ça va commencer à 18h à Budapest avec le Portugal qui remet son titre en jeu. Et face à l'adversaire le plus faible du groupe sur le papier, c'est le match à gagner à tout prix pour les Lusitaniens, Mathieu Schaffner.
Oui, faux pas interdit pour Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers, mais attention, ce n'est pas une promenade de santé qui attend le Portugal en fin de journée. Les Lusitaniens vont évoluer en terrain hostile, le plus hostile de la compétition. La Puskás Arena, c'est le seul stade de ce championnat d'Europe à ne pas appliquer de jauge de spectateurs. Ce sera donc du guichet fermé à Budapest, 68 000 personnes, dont une grande majorité derrière la Hongrie. Il faudra retrouver ses repères pour évoluer dans une telle ambiance, ce qui n'est plus arrivé depuis un an et demi. Le danger ne viendra pas que des tribunes pour le Portugal. Les joueurs de Fernando Santos se souviendront de leur dernier match de groupe il y a 5 ans. Ils avaient arraché leur qualification grâce à un nul 3-3 face à qui ? Eh bien face à cette même Hongrie, en revenant 3 fois à la marque, le champion d'Europe en titre est prévenu.
Le Portugal qui sera privé pour ce premier match de son défenseur João Cancelo, positif au coronavirus. Voilà pour la mise en bouche avant un alléchant France-Allemagne à 21h à Munich. Deux candidats au titre, deux rivaux héréditaires qui s'affrontent pour leur premier match de la compétition. Rien que l'affiche promet beaucoup, et encore plus après les déclarations d'un certain Antonio Rüdiger, Mathieu.
Antonio Rüdiger, l'un des défenseurs de la Mannschaft, tout récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas sa langue dans sa poche, il dit tout haut ce qu'il pense tout bas, jugez plutôt. Sur le papier, la France a l'air plus forte, mais c'est sur le papier, nous les laissons être favoris. De notre côté, il faudra savoir jouer salement à l'occasion et envoyer un signal rapidement. Vous avez bien entendu ? Jouer salement, la couleur est annoncée, et la réponse de l'équipe de France n'a pas tardé via l'attaquant Kylian Mbappé.
Chacun se bat avec ses armes. Nos armes, c'est de jouer ensemble, de jouer notre football. Si leurs armes, c'est ça, bah, ils joueront avec leurs armes et nous, on jouera avec les nôtres. Et voilà, on reste concentré dans notre préparation. On va bien les analyser pour essayer de voir leurs faiblesses et leurs forces. Et on va se concentrer au maximum pour essayer de bien entamer ce tournoi.
Le choc est donc lancé. On peut s'attendre à un début de match particulièrement électrique. Le duel Rudiger-Mbappé promet quelques étincelles.
Et on reviendra évidemment sur ce France-Allemagne dans le Café de l'Euro. C'est entre 13h et 13h30. Michael Hoy sera en direct dans le regard de l'expert, ancien joueur des SR de Lémont, de Neuchâtel-Xamax et du FC Bienne. On vous propose aussi le coup d'œil de Frédéric Page sur la Mannschaft, lui qui a passé 4 saisons en Bundesliga dans le championnat d'Allemagne. Musique et humour aussi sont au programme. Rendez-vous à 13h.
Le journal de l'Euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier. Volkswagen.
C'est une nouvelle très très belle journée avec un soleil radieux et tout au plus quelques fins voiles d'altitude cet après-midi qui est prévu selon Météo News. Il y aura des cumulus sur les Franches-Montagnes, un cran plus imposant que ces derniers jours, mais sans risque de pluie, nous dit-on. Au meilleur de la journée, il fera entre 26 et 30 degrés sur notre région. Et demain, le temps sera ensoleillé et très chaud avec quelques voiles se développant au fil de la journée. Le mercure, lui, grimpera jusqu'à 26 degrés aux Franches-Montagnes et 30 en pleine.